Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Batte la main danser, bonne maman, batte la main danser. Batte la main danser, bonne maman, enfants les sauver.
Batte la main danser, bonne maman, batte la main danser. Batte la main danser, bonne maman, enfants les sauver.
Amis auditeurs, bonjour. Nous avons choisi de vous lire en deux épisodes des extraits d'un essai intitulé « L'affaire de l'esclave Fursy ». Nous vous rappelons que dans l'île Bourbon, ancien nom de l'île de la Réunion, l'esclave Fursy, en 1817, né de Madeleine, une indienne libre et donc injustement asservie, a décidé d'intenter un procès à son maître. Le procureur de Saint-Denis, Gilbert Boucher, et son substitut, Sully Brunet, soutiennent sa requête. Ce sont des archives vendues en 2005 à l'hôtel Drouot qui ont permis à Mohamed Aissaoui d'écrire cet essai couronné par le prix Renaudot dans la catégorie essai en 2010. La parade trouvée par Debassin de Richemont, qui fait office de commissaire général ordonnateur de l'île, pour tuer dans l'œuf toute rébellion, c'est d'accuser Fursy de fuite. Le jour du procès en novembre 1817 arriva. Il fallait statuer sur le sort de Fursy et celui de Sully Brunet, que Debassin voulait suspendre de ses fonctions pour affaiblir Boucher. Une foule de noirs est rassemblée. À l'intérieur, 11 hommes de loi.
On procéda aux résolutions, puis à leur vote. La première question était simple. Fursy devait-il retourner en prison pour acte de rébellion et fait de marronnage? 9 mains se levèrent, sauf celle de Gilbert Boucher et de Sully Brunet. Fursy ne montra aucune émotion, comme s'il ne s'attendait pas à autre chose. Le président du tribunal passa rapidement à la question suivante. Jacques Sully Brunet devait-il être suspendu de ses fonctions pour avoir conseillé Fursy et, si oui, devait-il être déporté à la rivière des Roches, à Saint-Benoît? Le résultat fut exactement le même. Tandis que Debassin essayait de réprimer un sourire de satisfaction, Gilbert Boucher bouillait intérieurement. Seules ses mains qu'il tapotait contre ses cuisses trahissaient sa nervosité. On posa les autres questions et les réponses furent invariablement les mêmes. Tous les Noirs qui ont touché le sol de la France bénéficient-ils du principe que nul n'est esclave en France et doivent-ils être affranchis? Non. 9 voix. Oui. 2 voix. Les enfants ayant moins de 7 ans au moment de l'affranchissement de leur mère bénéficient-ils du même sort? Non. 9 voix. Oui. 2 voix. Le commissaire général ordonnateur a-t-il le droit de faire arrêter et incarcérer un individu par mesure de haute police? Oui. 9 voix. Non. 2 voix. L'audience ne dura même pas une heure, alors que d'habitude, elle prenait toute la demi-journée et qu'on était obligé d'abréger les débats à la tombée de la nuit. La séance allait se terminer, et des bassins étaient satisfaits de la tournure des événements. On n'entendrait plus parler de l'affaire de Fursy. C'est à ce moment-là, des hommes commençaient alors à se lever pour partir, que Gilbert Boucher se mit debout. D'un regard vers le président, il lui rappela l'usage qui autorisait un membre du tribunal à prendre la parole. Boucher resta ainsi quelques secondes qui semblèrent longues. Puis le président, après avoir jeté un regard en direction de Desbassins, comme pour lui dire « bien obligé, c'est la règle », fit un signe du revers de la main un peu dédaigneux vers Boucher pour l'inviter à prendre la parole. Sans transition ni formule de politesse, Boucher démarra d'un air exagérément abattu. C'est un jour de deuil pour la justice. Je devrais me taire face à une décision du tribunal, mais je ne peux pas. Je demande au greffier de noter ce que je vais dire. Ce à quoi vous venez d'assister est un acte arbitraire des plus sinistres. Monsieur Jacques Sully Brunet n'a fait que son devoir et rien d'autre. Cette décision de suspension et d'exil qui le frappe est inique. En ma qualité de procureur général, je demande que cette ordonnance ne soit pas enregistrée car Monsieur Desbassins n'est pas légalement qualifié pour faire appliquer une ordonnance de renvoi et de suspension. Dans l'assistance, certains restèrent debout comme éberlués par ce qu'ils venaient d'entendre. Boucher continua, imperturbable, son ton se faisant un peu plus offensif. Ne soyez pas étonnés si un jour il y a des débordements que vous ne pouvez réprimer. J'ai peu de liens qui me poussent à rester dans cette colonie, mais tant que j'y serai, ma vie et mes facultés seront employés à garantir avec fermeté la loi et l'honneur des femmes et des hommes de l'île, quels qu'ils soient. Je les assurerai de mon appui, de ma protection. J'en ai fait le serment au roi. » Il s'arrêta un instant, comme sonné lui-même par les paroles qu'il venait de prononcer. Il poursuivit. « J'ai fait le serment au roi de ne pas m'écarter de cette voie. Que ni les inepties ni les calomnies ne pourraient m'atteindre. » Puis il porta le coup de grâce. « Je demande au greffier de ne pas oublier de noter ce qui suit, comme la réglementation m'y autorise. Je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le cas Fursy, et je demande que l'affaire soit portée à la cour royale en deuxième instance. » Un silence. Un long silence. L'assistance était figée. Pendant toute l'audience, Fursy avait gardé dans sa main gauche un papier, la Déclaration des droits de l'homme. Desbassins était furieux. Il mordillait ses lèvres, les poings serrés. Il pensait avoir remporté une victoire définitive. Et voilà que Boucher contre-attaquait publiquement et profitait de l'audience du tribunal. Quelle humiliation! Il n'avait jamais subi un tel affront.
Après ce retournement de situation, deux lettres de Desbassins adressées au ministre des colonies, retrouvées par l'auteur, attestent de son esprit de vengeance. Il chercha également à faire pression sur Constance et Adolphe Dupérier. Quant à Joseph Lory, après avoir accédé au désir de Boucher de rentrer provisoirement en France, il fait publier sur le journal local l'annonce du départ de la famille du procureur et lui envoie une lettre lui annonçant le nom de son successeur. Colère de Boucher, qui jura, coup qu'il fût, il n'abandonnerait jamais l'affaire Fursy. Le procès en appel du mois de février 1818 fut perdu. Cependant, Fursy était devenu un symbole.
Fursy avait perdu. Il avait perdu son procès en appel. Mais il continuait d'effrayer car il était devenu un symbole. Dans l'île, des milliers de gens parlaient de lui. Il avait rejoint la prison. De plus en plus de noirs se rendaient à côté de son cachot. Certains chantaient. D'autres faisaient du bruit pour manifester leur soutien. On se relayait, il n'était jamais seul. Son histoire faisait le tour de l'île d'une manière extraordinaire. On se demande ce que Fursy pouvait bien penser. Était-il fier? Pouvait-il se contenter d'être un symbole? Et Célérine, ne lui manquait-elle pas? On n'arrive pas à imaginer s'il adoptait l'attitude d'un homme qui se sacrifiait pour une cause ou s'il trouvait son sort injuste. Peut-être même regrettait-il d'avoir déclenché tout cela. Cela en valait-il la peine? De toute son existence, à plus de 32 ans, il n'avait connu que l'esclavage et la prison, une vie enfermée. Une nuit, alors que Desbassins rentrait chez lui, il surprit une conversation entre deux noirs. Ils évoquaient Fursy en chuchotant. On sentait de l'admiration dans leur voix. Ils se disaient peut-être, eux aussi pourraient revendiquer la liberté. Ces bruits inquiétèrent Desbassins. Il conseilla à Joseph Laurie d'éloigner l'esclave de Bourbon. Cela tombait bien. La famille de Laurie possédait une habitation à l'île de France. Il allait leur vendre Fursy, pas trop cher. On le fit sortir de prison le 2 novembre 1818 à 17h30. La nuit était en train de tomber sur Saint-Denis et les rues commençaient à se vider. Il faisait frais. Laurie avait suivi à la lettre les recommandations de Desbassins. Il avait vendu Fursy à son frère aîné, Pierre Laurie Routier, et l'avait embarqué immédiatement sur le bateau La Clélie. Il lui avait retiré de force tous les papiers qu'il possédait. Direction Île-de-France. Le voyage dura 10 jours. L'esclave avait une chaîne qui reliait sa main droite à son pied droit. Le 12 novembre, ils arrivèrent à Port-Louis. Le matin était magnifique et animé. Par certains côtés, la ville avait des airs de Saint-Denis. Elle respirait un parfum sucré et paraissait bienveillante. L'habitation du frère de Laurie, qui possédait une plantation sucrière, se trouvait à une 20 kilomètres de Port-Louis. On obligea Fursy à marcher presque toute la journée. Après une année de captivité, il n'en avait plus l'habitude. Ses genoux lui faisaient mal et ses jambes étaient enflées. Il arriva exténué. Ce fut Pierre Laurie Routier qui l'accueillit. Fursy remarqua qu'il avait 6 doigts à chaque main. Un doigt mort était collé au petit. Entre eux, les esclaves l'appelaient « Monsieur Six-Doigts ». Il pointa son index vers le visage de Fursy. « Je t'ai acheté 700 piastres à mon frère. Tu as intérêt à marcher droit. Et je saurais te faire marcher droit. » Fursy ne répondit rien.
Dodo, mon baba, dodo, dodo, mon baba.
De 1818 à 1836, Fursy a passé 18 années de travaux forcés à l'Île-de-France. Durant cette même période, le procureur Boucher officiera en Corse, puis à Bordeaux, puis Poitiers. Et voici ce que découvre Mohamed Aïssaoui lors de ses recherches dans un dossier non classé, cette lettre envoyée par Fursy au procureur Boucher.
L'ancien procureur général de Bourbon ne céda jamais. À Bastiat, à Paris, à Poitiers, à Bordeaux. Il garda le dossier auprès de lui et il le compléta de lettres, de copies, d'actes juridiques. Au besoin, il suscita des témoignages. Il en recevait beaucoup. 33 lettres de Bourbon, écrites par des notables qui racontaient des exactions de des bassins. Certains disaient leur tristesse de ne plus le voir, lui, boucher. Il prenait des notes tous les jours, se mettait au courant des nouvelles lois. Il recopiait des pièces même au pied du bateau quand il quitta Bourbon. Toute sa vie, il prit des notes. Aux archives départementales de La Réunion où je consultais son dossier, j'ai pris des notes, moi aussi, car la photocopie est interdite. Je notais avec la peur d'oublier un document ou un passage essentiel. Tout était si important et si révélateur. Par moments, j'avais du mal à respirer face à la tâche qui m'attendait. Je n'arrivais pas à me relire, je prenais un peu de temps pour retrouver mon souffle. Je me disais que Gilbert Boucher avait passé son existence à recueillir et à recopier des papiers et que j'étais en train de continuer. J'avais envie de l'aider à ma manière, de poursuivre son immense travail. Je désirais que tout ce que j'étais en train de découvrir soit connu du plus grand nombre. Il y avait des textes magnifiques, des plaidoiries magistrales dans ce dossier. Et ces 7 lettres signées Fursy.
Voici l'une des 7 lettres envoyées par Fursy.
Port-Louis, île Maurice, 15 mai 1826. À Monsieur Boucher, ancien procureur général à l'île Bourbon. Monsieur, j'eus l'honneur de vous adresser vers la fin de 1824 une lettre qui vous a été remise, ou à votre beau-père, Monsieur Le Gonidec, par une dame qui demeure à Paris. Je n'ai point reçu de réponse, et je crois que ma lettre ne vous est point parvenue. Je le crois, parce que je suis sûr que l'infortuné à qui vous vous adressâtes à Bourbon ne peut être entièrement effacé de votre mémoire. Je prends donc encore la liberté de vous écrire pour vous supplier de penser à moi, de me faire savoir si je ne dois plus espérer et si, né libre, il m'est défendu de jouir des droits que ma naissance m'accordait. J'ai été vendu à la sœur de l'homme qui se disait mon maître et depuis 7 ans, je suis à Maurice, éloigné de mes enfants et même privé de l'avantage dont jouissent tant d'autres esclaves, celui d'être maître de mon temps et de mes actions, quoique j'ai offert à mes maîtres prétendus jusqu'à 10 piastres par mois. Vous le savez mieux qu'un autre, monsieur. Si j'avais et si j'ai encore des droits à réclamer ma liberté, vous m'encourageâtes dans mes demandes. Vous me protégiez, j'allais respirer l'air de la liberté. Vous partîtes, je suis esclave. On n'a pas voulu me laisser le droit de choisir mon avocat, et en voyant celui que la cour m'a désigné, celui de mon adversaire, je devinais mon sort. C'est donc à vous que je m'adresse, comme au seul homme qui daignait s'intéresser à moi. C'est depuis de Maurice que je vous fais entendre ma voix pour vous demander si, fils d'une indienne libre qui avait séjourné en France, je puis être compté au nombre des esclaves, sans qu'on viole toutes les lois, toutes les institutions qui font la sauvegarde du pays que vous habitez, dont je suis moi-même, car je suis né d'un colon français, et je suis fils d'un Français de naissance. Le roi, m'a-t-on dit, vous a honoré du titre de procureur général à Bastia. On prétend que vous en êtes revenu. Sans doute que de nouvelles charges vous ont été le gage de l'estime du souverain. Que ne peut-il être instruit de mon sort? Que vous êtes mon interprète auprès de lui. Je serai sûr alors de rentrer dans mon droit. En attendant une réponse que je demande non à votre bonté, que je connais bien grande, mais à votre justice, permettez à un homme dans les fers de la servitude que vous seul pouvez faire tomber, de vous assurer de sa respectueuse et éternelle reconnaissance. Fursy Lory.
Ça t'est là qu'on manque à ton hyper. Tous les salés, tu opilles les serres. Tu t'es flaquité. les misères d'une habitation humaine. Tu prends goût en l'âme de Dieu, prière pour Dieu, mon. Tu prends goût en l'âme de Dieu, prière pour Dieu. Nous voilà partout, car la parole nous s'il a demandé.
Mohamed Aissaoui observe que,
en 1829, presque 10 ans après qu'il avait rejoint l'île Maurice, les autorités anglaises qui administraient le territoire punirent d'une amende la famille Laurie. Et comme il était d'usage dans ces cas-là, ils libérèrent la marchandise. Ils émancipèrent Fursy. Ainsi, en 1829, il est libre grâce à une loi qui fait de lui un meuble. C'est bien la première fois qu'une réglementation lui est favorable. Mais l'émancipation n'est pas la liberté. Fursy, lui, veut la liberté absolue, indispensable pour se marier, avoir des enfants, se donner un nom, leur donner un nom. Pour atteindre son objectif, il doit retourner à Bourbon, au tribunal. Après cette émancipation, Fursy se mit à son compte en tant que confiseur. Longtemps, j'en ai pas su plus. Mais à force de chercher, on tombe sur des informations qu'on n'attendait plus. À mon grand étonnement, j'ai trouvé un article de journal, L'abolitionniste français, qui mentionnait Fursy et évoquait son long emprisonnement puis son exil à Maurice. Le journal employait ces mots mystérieux, ces mots réjouissants. Fursy était devenu, comme confiseur, une des notabilités de l'île. Je me suis demandé ce qu'était une notabilité. J'ai pensé que ce devait être quelqu'un de reconnu. On y disait qu'il avait fait fortune. Cela m'a fait plaisir. Mais je n'en ai pas été surpris. Je commençais à connaître le personnage, sa détermination et aussi ses multiples talents. J'ai appris aussi que Fursy avait des enfants. Il l'écrit, mais il n'indique pas leur nombre, pas plus que le nom de la mère. S'agissait-il de Célérine ? Il tente de se marier, mais l'administration mauricienne ne peut le lui autoriser à cause de cet acte de baptême qu'il ne peut se procurer. Il fera tout pour le retrouver.
Tu es même pourquoi peut-être, peut-être la pas s'ouvrir. Jusqu'aux coquillons en dette, tu es mon tissu manqué. Jusqu'aux coquillons en dette, tu es mon tissu manqué.
L'endurance de Fursy et la persévérance du procureur Gilbert Boucher sont toutes les deux admirables. La personnalité du procureur est cernée en ces termes.
Gilbert Boucher pensait que pour comprendre une époque, il fallait observer son modèle économique, voir comme il fonctionnait. Pour lui, l'esclavage était un redoutable système, sans doute le plus rentable qui ait jamais existé. Boucher avait des pensées amères. On a habillé l'esclavage du vernis de la morale, de la religion. Ah, Dieu, qu'est-ce qu'on a pu faire en ton nom ? On l'a même justifié par des considérations physiques, naturelles. En réalité, il n'est question que d'argent, de commerce. La religion, comme la morale fluctuante, n'était que le moyen de faire admettre des atrocités, se disait-il. Et la couleur de la peau ? D'abord, le mot noir était avant tout synonyme d'esclave. Ensuite, à l'île Bourbon, il existait tellement de nuances de couleur de peau qu'il était bien difficile de s'y retrouver. On avait bien essayé d'établir des catégories, blanc, métis, noir ou rouge. C'était tellement compliqué que l'administration coloniale avait abdiqué face à toute tentative de classification. En pensant à cela, Boucher avait esquissé un sourire. Il se rappelait qu'à son arrivée sur l'île Bourbon, il avait été frappé par cet extraordinaire mélange de populations. On y croisait des gens de toutes sortes, des noirs, aux traits d'asiatiques, des blancs, aux formes négroïdes, des indiens, des blonds à la peau brune, et toutes les couleurs et toutes les formes de cheveux. Il existait tant de teintes de peau, y compris au sein d'une même famille, qu'il était bien difficile de classer tel homme ou telle femme dans telle catégorie. Enfin, tout était bien moins monochrome qu'on veut bien le croire. Bien sûr, il y avait des noirs esclaves. Mais des noirs possédaient aussi des esclaves. Et nombre d'entre eux étaient farouchement opposés à toute idée d'abolition. Des noirs chassaient jusqu'à les tuer d'autres noirs. Des noirs asservissaient des métis. Et il arrivait souvent que, dès qu'un esclave devenait affranchi, il ambitionnait de posséder des esclaves lui aussi. Des blancs aidaient les noirs, et vice-versa. Boucher savait également que dans l'Afrique de l'Ouest, des hommes, noirs, notamment des rois autoproclamés, des princes de village ou des chefs de tribu, s'étaient considérablement enrichis en vendant une partie de leur peuple. Ils n'étaient pas les moins atroces quand il s'agissait de maltraiter et de torturer. Des musulmans aussi avaient exercé les pires exactions. Il suffisait d'observer le système économique et tout s'éclairait. Cette idée ne quittait pas l'esprit de Gilbert Boucher. Si l'on regardait de plus près, pensait-il, tout était organisé pour maintenir le système en place. L'homme considéré comme une marchandise. L'interdiction pour les esclaves de posséder et donc de s'enrichir. L'interdiction de s'instruire. L'interdiction de porter plainte. Tout était diaboliquement ingénieux. D'ailleurs, quand cela pouvait arranger les esclavagistes, on mettait de côté certaines considérations. Les relations sexuelles entre blancs et noirs, par exemple, pour ne pas dire les viols, étaient monnaie courante. On s'en accommodait. Tous les rouages politiques, administratifs, judiciaires tendaient vers ce seul but, entretenir la machine esclavagiste pour nourrir l'économie. Des industries entières avaient prospéré grâce à ce système. Autrement, ce n'aurait pas été aussi efficace. L'abolition faisait peur, non pour des raisons idéologiques ou philosophiques, mais pour des raisons économiques. La loi établissait qu'un homme était une marchandise. Et forcément, en luttant contre cela, on entrait dans l'illégalité. C'est pour ces raisons que l'affaire de l'esclave Fursy ébranlait toute une organisation parce qu'elle prenait la voie des tribunaux. Elle attaquait au cœur du fonctionnement avec le risque que 16 000 esclaves exigent leur liberté. C'est pour cela aussi que Boucher s'était juré de ne jamais perdre de vue cette histoire, quel que soit le lieu où il se trouverait. Et Dieu sait qu'il en avait fait des villes, en raison d'une carrière chaotique. Comme certains magistrats qui avaient exercé leurs fonctions dans les colonies, ils s'étaient retrouvés en conflit avec le ministère de la Marine qu'il avait attaqué au Conseil d'État. On lui devait 10 000 francs de traitement. Oui, il avait suivi l'affaire de l'esclave Fursy partout où il se trouvait. Il avait tenu sa promesse au-delà de l'imaginable, constituant pièce par pièce, tout un dossier, avec énergie et ténacité, une ardeur proche de la pathologie ou de la foi. Entre 1817 et 1840, presque chaque jour durant 23 ans, il avait constitué un mémoire de près de 1000 pages. C'était impressionnant. Chaque pièce était recopiée en plusieurs exemplaires. Il avait laissé des brouillons, des remarques en marge, souligné des articles de loi, repris des extraits de registres, classé clairement les correspondances qu'il avait reçues. Devant un tel travail, on ne pouvait être qu'admiratif, percevant dans cette démarche quelque chose d'héroïque. Ce dossier, Gilbert Boucher l'avait légué à sa famille, comme on lègue une fortune soigneusement constituée. Je ne comprends pas pourquoi ses descendants ne l'ont fait ressurgir qu'un siècle et demi plus tard. Ignorait-il sa dimension historique, son inestimable valeur ?
Y'en compte pas moins général, y'en compte pas moins.
Le procureur Gilbert Boucher mourut en 1841 à l'âge de 59 ans. Il n'était plus de ce monde lors du jugement en cour de cassation qui eut lieu en 1844. Fursy avait à cette époque 58 ans. Son avocat, Maître Thureau, finit ainsi sa plaidoirie pour obtenir la liberté de l'esclave Fursey dans un royaume, la France, qui n'a pas aboli l'esclavage.
Mais beaucoup ont refusé de le voir. Fursey est libre, car sa mère était libre dès qu'elle a touché le sol de la France. Alors, pour le maintenir dans la soumission, on va chercher une réglementation établie au XVIIIe siècle à Chandernagore qui aurait déclaré esclave sa mère. Tout d'abord, Fursey vous prouve que sa mère est venue en France et que par ce conséquent, elle est libre. Vous lui répondez qu'elle n'est pas libre parce que cette règle n'admettait pas la liberté pour les esclaves qui avaient été déclarés. Mais je vous le demande, même si cette règle pouvait avoir une importance, prouvez-lui donc que sa mère a été déclarée à Chandernagore au moment du départ et à Lorient au moment de son arrivée. Vous ne le pouvez pas. Et toutes les circonstances démontrent au contraire que ces déclarations n'ont jamais été faites et qu'elles n'ont jamais pu l'être. Madeleine était amenée en France par une femme âgée qui quittait les Indes sans esprit de retour, qui venait embrasser ici la vie monastique, qui voulait seulement donner à la jeune indienne une éducation chrétienne et qui plus tard ne la renvoyait que pour être affranchie. Mais dites-vous encore, et c'est là votre objection dernière, Madeleine n'a pas en France réclamé sa liberté. Elle est retournée aux colonies, elle a accepté l'affranchissement, du moins le croit-on. Elle a donc renoncé au privilège que lui avait conféré son séjour dans la métropole. Je vous comprendrais s'il s'agissait d'un droit privé, mais la liberté est d'ordre public. Je vous comprendrais encore s'il s'agissait d'un droit qui pût se perdre par prescription. Mais la liberté est imprescriptible. Le droit de l'esclave qui touche le sol de France ne dépend pas d'une déclaration judiciaire. L'esclave devient libre de plein droit, il devient libre de suite et pour toujours. Il s'interrompit un instant et répéta « Il devient libre de suite et pour toujours. » Dans la salle, des hommes se levèrent et applaudirent. Une partie resta assise, marquant son mécontentement. Le président se leva. Il décida de suspendre la séance.
Poison la donne le cousin. Védom vu rêve sans mou. Kim la mer donne co volcan.
Quatre ans après, le commissaire général de la République, Sarda Garriga, vint le 20 décembre 1848 annoncer aux 60 000 esclaves de l'île de la Réunion que l'abolition de l'esclavage ayant été votée par la Seconde République, ils étaient libres. On ne sait si Fursey était toujours en vie. Mohamed Aissaoui conclut cet essai en s'interrogeant sur ce que lui a appris cette recherche et ce qu'elle a éveillé en lui.
Il n'y a pas pléthore de documents d'un esclave qui a osé se rendre au tribunal, à être allé jusqu'à la cour de cassation. 27 années de procédure, un nom, des hommes qui l'ont soutenu, des justes, d'autres qui l'ont maltraité, emprisonné, des documents précieux, des lettres signées par un esclave. J'étais surpris que personne ne s'y soit véritablement intéressé. 6 mois après Drouot, les textes dormaient encore dans un bureau parisien au milieu de bibelots sans intérêt, en attendant leur expédition aux archives départementales de La Réunion. 4 ans après, ils n'étaient toujours pas classés. Alors j'ai voulu rendre un peu justice à Fursey et lui donner corps, si possible. J'ai pensé à ces mots de Georges Semprin, prononcés à propos de la littérature de déportation. Il affirmait « Sans la fiction, le souvenir périt. » J'ai longtemps fui cette question. Pourquoi cette histoire de l'esclave Fursey a-t-elle résonné si fort en moi et résonne-t-elle encore? Où faut-il chercher les clés pour comprendre? Je n'ai pas le début d'une réponse. Il paraît que l'on met dans un livre ce qu'on ne peut pas dire. Mais qu'ai-je voulu dire? Sinon l'extravagante patience d'un homme à devenir libre, sa détermination hors norme. Je crois que c'est le silence que je voulais dénoncer, cette absence de texte et de témoignage direct sur tout un pan d'une histoire récente. Cette absence de recherche, d'archéologie. Seuls quelques universitaires ont tenté de briser ce silence. On en sait plus sur le Moyen-Âge que sur l'esclavage. La phrase de l'universitaire Hubert Gerbeau, « L'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives », est tellement juste. Je suis effarée par la quasi-inexistence des archives, leur éparpillement quand elles existent, le peu de témoignages des victimes, l'effacement progressif des traces écrites. On découvre de nombreux exemples de carnets de chasseurs d'esclaves, des comptes rendus d'esclavagistes. Ils sont nécessaires, il faut les montrer. Mais on peut regretter qu'il existe si peu de témoignages des personnes asservies. Et pourtant, de Fursy, j'ai aimé ces silences. Ces silences qui ont été sa force et sa chaîne.
Que me calo tu te mande la, tu la pa mette la gueule banna, tu la pète à moi. Que le gamun te mande la, que le gamun te viamont à moi.
L'île de la Réunion. Aujourd'hui, un département d'outre-mer. Destination de rêve pour beaucoup de métropolitains. À travers la figure de Fursy, de son maître Lori, des riches propriétaires, le contexte économique du marché de la canne à sucre, c'est toute une partie de notre histoire que le travail de Mohamed Aissaoui ressuscite. Cette émission a été préparée et lue par Anne, Philippe, Marie et Annie. La technique est assurée par Vincent. La musique entendue est celle de l'album de Daniel Warraud, intitulé « Bois rose ». Ce réunionnais chante la révolte de tout un peuple. Le dernier morceau intitulé « Dodo » nous invite à l'espoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez